Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le fantastique social, les faits divers. Chaque arrondissement de Paris devient un village. Après les poèmes, les textes automatiques, après avoir vendu des journaux dans la rue et pratiqué tant et tant d'autres métiers ou activités littéraires, il était temps d'écrire des romans d'aventure, de cap et d'épée, et puis bien sûr des romans policiers. Et ce fut la guerre, l'occupation qui fournit un décor, le couvre-feu, le blackout et le reste. La poésie allait basculer dans les romans. Quels sont donc les rapports de Léo Mallet avec Nestor Burma? Les drames clos allaient éclore dans la ville ouverte. Entretien Léo Mallet-Hubert Juin, cinquième et dernier volet d'une série, première diffusion sur France Culture le 6 février 1976.
Léo Mallet, à un moment donné, vous trouvez incompatible l'activité nouvelle qui va être la vôtre dorénavant, c'est-à-dire celle de romancier, et celle de membre, disons, du groupe surréaliste. Comment ça s'est-il passé, ça?
Bien, ça s'est passé que sous l'occupation, ayant été fait prisonnier, quand je suis revenu de captivité, il fallait que je gagne ma vie. Je voulais reprendre mon ancien métier de crieur de journaux, car c'est comme ça que ça s'appelle, ça n'est pas marchand de journaux,
bien sûr,
c'est crieur de journaux. Je voulais reprendre mon activité, mais j'ai rencontré Louis Chavance, que j'avais connu dans l'entourage de Prévert. Chavance me dit, est-ce que tu ne voudrais pas écrire des romans policiers? Je suis directeur de collection. C'était en 1941, c'était tout de suite après l'armistice, les premiers temps de l'occupation. Pour subvenir à ses besoins, il avait trouvé une place de directeur de collection dans la maison Ventillard. Alors il me dit, je suis directeur de collection, je cherche des textes, est-ce que tu veux écrire un roman policier? Moi j'ai dit, oh. J'avais fait un vague essai quelques années auparavant, et je n'étais pas allé au-delà de la page 10. Mais j'ai dit, écoute, maintenant, il faut choisir, il faut se jeter à l'eau, je vais essayer de faire quelque chose. Et alors j'ai fait un roman. Alors il me dit, ce sont des romans sous pseudonyme anglo-saxon, pour donner le change au lecteur, et ça se passe bien entendu en Amérique ou en Angleterre. Alors j'ai écrit quelques romans policiers comme ça sous pseudonyme, le pseudonyme de Frank Harding.
C'est ça, Frank Harding.
Le nom du président de la République des États-Unis. Et ils ont été bien accueillis, en tout cas par l'éditeur, car il n'était pas question à ce moment-là de critique, n'est-ce pas?
Bien sûr.
Et j'ai gagné ma vie comme ça en écrivant des romans de ce genre, puis des petits romans, des romans d'aventure, des romans de cap et d'épée aussi, des tout petits trucs. Et puis un beau jour, alors c'est là qu'apparaît le genre de lettres et la vanité de l'auteur, je me suis dit, mais puisqu'on me dit, parce que je faisais lire autour de moi les bouquins quand ils étaient publiés, toujours je distribuais assez aisément à mes amis, j'ai dit, mais puisque on trouve ce que tu fais pas trop mal, est-ce que tu ne pourrais pas en écrire un sous ton nom? Et c'est là que j'ai écrit un bouquin qui s'appelait 120 rue de la Gare, où j'ai mis en scène un personnage de détective privé dont on m'a dit qu'il n'existait pas l'équivalent en France. Mais là, moi, je demande encore à voir, car les gens qui me disent ça n'ont pas travaillé, n'ont pas été le nègre d'un maître chanteur analphabète comme je l'ai été, moi, dans l'orbe duquel gravitaient des personnages très troublants, et notamment des détectives privés. Bon, alors pour en revenir à ce détective privé, je l'ai appelé Nestor Burma. Je ne sais pourquoi, on m'a posé sans voix la question. Je n'en sais rien.
Mais vous avez une idée d'explication qui est dans les cahiers du silence?
Oui, mais elle est un peu longue à fournir.
C'était dans le Fu
Manchu, c'est-à-dire, c'est ça, oui. Le premier chapitre de Fu Manchu s'ouvre la nuit chez le docteur Petri. C'est la nuit, il y a le brouillard, enfin c'est le Londres tel qu'on le voit comme ça dans les romans policiers. On sonne à la porte, le docteur Petri va ouvrir et il voit devant lui un personnage engoncé dans un pardessus, la pipe à la bouche, et il s'exclame « Nayland Smith de Burma ». Car cet homme venait de Birmanie, et le traducteur n'avait pas jugé utile d'écrire de Birmanie. Il s'était imaginé que Burma, c'était une ville ou je ne sais quoi. C'était sonore, oui. Nestor, ça faisait également sonore, et le tout faisait, nous revenons encore à quelque chose, le tout faisait baraque foraine. Baraque foraine et ses peintures idiotes qui étaient tellement prisées par Arthur Rimbaud.
Le surréalisme collait toujours.
Et alors, les romans policiers français, je n'étais pas un grand admirateur des romans policiers français, car je pensais qu'il y manquait quelque chose, il y manquait le décor.
Vous n'êtes pas tendre avec Stéman.
Je n'aime pas beaucoup, sauf les bouquins de lui qui se passent à Londres. N'entrons pas dans les détails surréalistes, les querelles de personnes.
Mais vous n'aimiez pas non plus, faisons vite le panorama, Maigret, parce que d'abord il existait, puis parce qu'un commissaire, ça ne vous plaisait pas, un commissaire.
Voilà.
Pour des raisons que nous avons déjà élucidées au cours des entretiens précédents, le commissaire, c'est quand même... ça a peut-être ses racines dans l'histoire Philippe Daudet, ça...
Ah, peut-être, oui.
On ne sait pas.
Non, je ne pouvais pas être Arsène Lupin, car il existait déjà. C'est-à-dire, alors, Arsène Lupin ne puis, Maigret ne daigne, Nestor Burma suit. Voilà. Alors, j'ai fait ce détective privé, qui évidemment est un petit peu littéraire, si l'on veut, enfin... Et je parlais du décor. Il n'y avait pas de décor dans les romans français. Il y en avait un peu de décor chez Simenon, mais enfin, on sentait qu'il était un peu plaqué. Mais sous l'occupation, c'est malheureux à dire, pour les gens qui ont souffert de l'occupation, et moi-même j'en ai souffert comme tout le monde, c'est malheureux à dire, mais l'occupation a apporté le décor qui manquait pour écrire un roman policier, c'est-à-dire, en dehors de toute considération politique ou patriotique ou antipatriotique, tu le comprendras, il y avait ce décor, c'est-à-dire le couvre-feu, le blackout, le passage de quelques voitures très rares et des bruits parfois lointains de DCA, c'est-à-dire le décor rêvé pour un roman policier. Nous n'avions pas de brouillard en France, il y avait le blackout. Je me suis dit, il faut utiliser ça. Et c'est là que j'ai écrit 120 rue de la Gare, qui a été le premier roman policier, pour ainsi dire contemporain, se passant sous l'occupation, avec comme toile de fond l'occupation.
Et il a été d'ailleurs si prisé qu'on en a fait un film.
On en a fait un film après. On voulait le faire aussi pendant la guerre, mais on ne savait pas s'il est prisonnier, car au début, ça se passe dans un camp de prisonniers. Le producteur était très inquiet. Il ne savait pas comment présenter les prisonniers. Fallait-il les présenter maigres ou gras ? Si on les présente gros, on sera fait engueuler par les Anglais. Si on les présente maigres, on va se faire engueuler tout de suite par les Allemands. À quoi j'ai répondu, mais écoutez, quand vous aurez une vingtaine de figurants, prenez-en la moitié des gros, la moitié des maigres, n'est-ce pas ? Enfin, ils n'ont pas voulu, ils ont attendu que la guerre soit terminée pour faire le film. Présenté ce roman sous mon nom, j'ai estimé que je n'avais pas à en rougir. Je n'avais à en rougir que d'un point de vue surréaliste.
C'est ça.
Parce que c'était incompatible. André Breton m'avait appris la rigueur. Cette rigueur, j'y suis toujours fidèle. J'estime qu'écrire des romans policiers, c'est incompatible avec le surréalisme. Depuis quelque temps, on me dit, non pas le contraire, mais on me dit qu'il y a dans mes bouquins, dans mes romans policiers, appelons-le comme ça pour la commodité de la conversation, on me dit que dans mes romans policiers, il y a une part de ma poésie d'antan, un transfert, une sorte de transfert.
Lorsque est né Nestor Burma, lorsqu'est né aussi ce décor que vous avez évoqué, ce décor qui va se poursuivre sous d'autres formes, enfin, qui indique déjà les nouveaux mystères de Paris, il est évident qu'à ce moment-là, vous cessez totalement d'écrire de la poésie.
Ah oui, pas tout de suite, mais enfin, un an ou deux après, j'ai écrit Le frère de Lassner en 42, 43. On peut dire que ça a marqué, il y a eu une coupure.
Poésie a basculé dans le roman.
Où je fais parfois des allusions au surréalisme, ne serait-ce que dans 120 rue de la Gare, où je parle d'un livre qui s'appelle Les 120 journées. Je n'ai pas voulu dire, il y avait la censure allemande. Alors, Et je n'ai pas cité Maurice Hine, j'ai appelé Maurice Hine, je l'ai appelé Maurice H, n'est-ce pas? Oui.
D'ailleurs, il y a dans vos romans policiers, appelons-les, continuons à les appeler ainsi, des allusions très perceptibles. Enfin, vous y mettez facilement vos amis.
Oui, oui, ça c'est un... Je m'amuse, oui.
Il y a, on pourrait dire qu'il y a des clés.
Il y a des clés, oui.
Il y a des clés.
Oui. Il y a des clés. Et d'ailleurs, il y a aussi des faits divers réels qui me servent pour bâtir une autre histoire. Par exemple, le bouquin « M'as-tu vu un cadavre ?» qui se passe dans le milieu des chanteurs de nos jours, c'est-à-dire de nos jours de 1955-57... la grande gloire, la grande époque de Bécaud et compagnie, j'ai mis en scène un chanteur illustre et son père. Et il y a un drame entre eux. Eh bien, ça, c'est la transposition de l'affaire Fraxon.
C'est ça.
Fraxon qui a été tué par son père car il partageait la même maîtresse. Et je l'ai fait se passer. Et là-dedans, dans ce livre-là, je fais allusion à l'affaire Philippe Daudet également. Et à l'affaire Bessarabo.
Bien sûr, bien sûr.
Je suis poursuivi par les faits divers.
Et poursuivons plutôt Nestor Burma. Alors, ce qu'il y a de frappant, évidemment, je l'ai dit tout à fait au début du premier entretien que nous avons eu ensemble, Nestor Burma, on ne peut pas lui donner d'âge, on ne peut pas non plus lui donner vraiment une silhouette, à part la pipe. C'est quelqu'un qui semble marcher à votre pas, enfin, je veux dire...
De plus en plus.
C'est ça, je crois que c'est assez perceptible.
Oui.
Et il y a un autre personnage, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est sa secrétaire. C'est Hélène, et dans cette agence qui se trouve située entre le théâtre du Mogador et une boutique de lingerie.
Attention, actuellement, les nouveaux mystères de Paris dont vous parlez se passent tous rue des Petits Champs, enfin se passent tous. Oui. Le bureau est toujours rue des Petits Champs.
Le bureau est rue des Petits Champs.
Ce sont pour les bouquins que j'ai écrits pour le Fleuve Noir que je l'ai placé rue de Mogador.
C'est ça. Et le personnage auquel je faisais allusion, c'est Hélène. Alors, Hélène est la secrétaire de Nestor Burma. C'est une très jolie fille, blonde, très séduisante, très remarquable par ses dessous.
Oui.
Il ne se passe jamais rien entre elle et Nestor Burma. D'ailleurs, on ne sait pas. Et il se passe d'ailleurs assez peu de choses entre Nestor Burma et les créatures de rêve qui se promènent à travers les nouveaux mystères
Burma
de Paris.
Nestor Burma étant également un personnage onirique dans la mesure où on ne peut pas le décrire.
Oui,
c'est comme
ça.
Dans les rêves où vous avez des personnages qui apparaissent, ils sont petits, trois secondes après ils sont grands. C'est un peu comme King Kong, vous savez, qui n'a jamais la même dimension. Dans les derniers bouquins que j'ai écrits, il est peut-être un petit peu plus décrit, c'est-à-dire qu'il me ressemble davantage. Mmh. Mais pour en revenir à Hélène, ça c'est un personnage absolument étonnant, car tout le monde s'interroge, qui est cette bonne femme et quels sont ses rapports avec Nestor Burma? Est-ce qu'il couche avec? Est-ce qu'il ne couche pas? Et j'ai des amis du collège de pataphysique qui vont d'ailleurs, je crois, publier bientôt une étude sur Nestor Burma et Hélène Châtelain.
Un grand mystère.
Ah ça alors, moi-même je n'en sais rien. Et si j'ai le temps de raconter une anecdote?
Oui, bien sûr, allez-y.
Eh bien un jour je reçois, nous devions être vers 1955, quelque chose dans ce goût-là, je reçois une coupure de presse où le critique qui ne signait pas faisait des éloges d'un de mes romans et disait « Mais quand donc Nestor Burma se mariera-t-il avec Hélène ?» Je réponds à ce personnage en lui disant « Mais monsieur, je ne sais pas s'il se mariera. Le mariage n'est pas une institution que je prise tellement fort. Peut-être leur arrive-t-il de temps en temps de coucher ensemble. » Ce type me répond et me dit « C'est bien ce que j'avais subodoré. » Et c'était signé d'un nom que je ne veux pas dire ici. C'est un monsieur que je respecte, quoi qu'il soit monseigneur. C'est un monseigneur. C'est un homme qui avait une grande place dans et qui a encore, je crois, une grande place...
Dans la hiérarchie.
Dans la hiérarchie. Et qui faisait une petite revue poétique. C'était un personnage qui, à Paris, à ce moment-là, était un grand monsieur de l'Église.
Rester à ce personnage et surtout à cette sorte d'épopée des nouveaux mystères de Paris. D'abord, comment c'est venu les nouveaux mystères de Paris?
C'est venu d'un jour que j'étais fauché, ce qui m'arrive assez souvent au cours de mon existence. Et j'étais en pétard après les gens qui font du cinéma et qui n'avaient pas pensé à faire appel à un type génial qui s'appelait Léo Mallet. Et je disais, et pourtant, ces imbéciles qui vont tourner on ne sait où, dans des studios ou au diable Vauvert, s'ils n'ont pas vu qu'il y avait Paris, c'était le décor le plus prestigieux pour faire se passer des histoires policières. Et ça, d'ailleurs, l'avait bien compris Louis Feuillade, qui avec les vampires, Fantomas et tout ça, s'était servi de Paris.
D'ailleurs, ce qu'il y a de très curieux, c'est que le Nestor Burma du film 120 rue de la Gare, petit garçon, avait joué pour Feuillade.
Oui, René Darry.
René Darry, donc. Encore là, une rencontre.
Le monde est petit. Et alors, je me suis ouvert. À ce moment-là, je faisais des paquets chez Hachette. J'étais emballeur chez Hachette. Et parce que j'avais eu une période faste après 120 rue de la Gare, et puis j'étais tombé dans une période moins faste. Ça, c'est la loi de... J'appelle ça la loi de Nestor Burma. C'est un truc en dents de scie. On monte, on descend, et jusqu'à ce qu'on se casse la gueule. Mais enfin, c'est la loi de Burma. Donc, je faisais des paquets chez Hachette, et j'écris à Maurice Renault, le directeur de Mister Magazine, avec qui j'étais en rapport. Je lui dis que j'étais bien embêté de faire ce métier, et tout ça, bien sûr. Les gens avec qui je travaillais étaient charmants, mais enfin, si je pouvais continuer à écrire des livres, car récemment, il m'était venu une idée... Faire des romans qui se seraient passés chacun dans un arrondissement déterminé, qui n'en serait jamais sorti, c'est-à-dire, par une formule paradoxale, le drame clos...
Dans la ville ouverte.
Oui, c'est ça. Ah, Renaud m'a dit, mais c'était pas tant, on appellerait ça les nouveaux mystères de Paris. Je ne crois pas que le titre était très bien trouvé, mais enfin, on l'a conservé. Et il a fait des pieds et des mains pour trouver un éditeur.
Et c'était Robert Laffont.
Alors ça a été Robert Laffont, qui a trouvé ça tout à fait farfelu, qui a trouvé ça... Tout de même, très Saint-Germain-des-Prés, ce sont ses propres paroles, il m'a dit tout ça, c'est très intellectuel, mais enfin, je vais tenter le coup. Et alors, c'est comme ça que ces bouquins sont parus chez Laffont.
Et c'est d'ailleurs comme ça que nous nous sommes connus. Et
oui, c'est ça. Au cours d'une séance à l'Écluse avec Noël, Léo Noël.
Oui. Et où d'ailleurs, nous avons regardé avec beaucoup d'intérêt une charmante créature qui s'est révélée être travestie.
C'est ça. Oui. Et nous, là, alors là, nous tombons, nous rejoignons la contemporanéité.
Oui. Mais Albert Simonin dit quelque chose qui m'a beaucoup frappé, que je considère comme très juste. Il dit que plus tard, et à la vitesse d'ailleurs effectivement, où le béton s'empare de tout, il est certain que les historiens, alors là vous voyez, c'est un très grand plan, c'est très important, que les historiens du futur, pour savoir ce qu'a pu être Paris à un moment donné, trouveront dans les nouveaux mystères de Paris des renseignements vrais, enfin, c'est-à-dire comme nous avons une idée d'un certain Paris du début du XIXe siècle par Balzac.
Mais je le crois aussi. Et là, même si je passe pour peu modeste, je le crois, car tous mes bouquins sont basés sur des paysages existants, avec une description aussi fidèle que possible des lieux, sauf évidemment s'il faut les modifier pour les besoins de l'intrigue, c'est
bien sûr.
Mais Paris disparaît petit à petit.
Vous n'êtes pas peiné?
Oh, mais je suis plus que peiné. Je suis scandalisé, notamment devant la maison de la radio, ce front de Seine. Mais vous savez, moi, je ne suis pas pacifiste. Si une guerre pouvait balayer tout ça, mais je l'appellerais de mes voeux. Parce que ça, c'est un véritable scandale.
Oui, et ça se passe dans tous les quartiers, bien entendu.
Et c'est d'ailleurs pour ça que depuis quelque temps que j'ai cessé d'écrire les nouveaux mystères de Paris, car je ne reconnais plus aucun arrondissement.
C'est ça. Et il vous en manquait combien?
Il m'en manquait 5. Il y en a encore un qui tient plus ou moins le choc, c'est celui de la Tour Eiffel, c'est-à-dire le 7e. Mais les autres, le 18e, 19e, tout ça, ça a été vraiment assez atteint. Mais alors, je vais tourner la difficulté. Ces arrondissements-là, je les ferai se passer dans une période passée.
C'est ça.
C'est-à-dire celui que je mijote sur Montmartre, se passera en 1925, et Nestor Burma n'est pas encore détective, il sera simplement chansonnier à la vache enragée.
Où il rencontrera Léo Mallet faisant ses débuts en célébrant la victoire de Duclos sur Reynaud.
Voilà.
On a parfois l'idée qu'un auteur de romans policiers est quelqu'un qui écrit âgé continu, qui, comme ça, livre des manuscrits, ce qui n'est pas du tout votre cas.
Ah, pas du tout, non.
C'est là où nous rejoignons quand même l'écrivain, parce que il faut dissiper un malentendu. On a l'impression, quand vous dites « oui, j'ai quitté le surréaliste parce que j'écrivais des romans », je pense que l'auditeur doit bien comprendre que c'était le phénomène roman qui vous détachait des surréalistes et pas fabrication
de
quelque chose d'inavouable, n'est-ce pas?
Je le regrette peut-être parfois. Quand je regarde mon escarcelle, je suis incapable d'écrire à G continu. Je ne peux écrire que ce que je pense, et même le plus mauvais de mes romans, c'est un roman que j'ai pensé pour me faire plaisir à moi et pour faire plaisir aux gens qui me suivent, car je suis très respectueux de mes lecteurs. Je ne voudrais pas déchoir à leurs yeux. Alors je fais toujours des choses qui sont honnêtes, quoi, c'est ça, c'est le mot. Je continue à avoir la même rigueur, cette rigueur que m'a enseigné Breton. Même si elle est appliquée à quelque chose d'un peu mineur, et même de beaucoup mineur, mais enfin, ça je ne peux pas. Je le regrette, si je pouvais écrire un bouquin en 4 jours, écrire n'importe quoi, en donnant de la saleté au lecteur, je serais certainement châtelain.
Mais en tout cas, cette idée me vient, Léo Mallet. Au fond, pour revenir à votre monseigneur, qui vous avait posé cette question au sujet des rapports Burma-Hélène, eh bien, la façon dont vous allez traiter les arrondissements pas encore traités, que vous allez donc basculer dans le passé, les promoteurs seront cause que nous ne saurons jamais si Nestor Burma épousera ou n'épousera pas Hélène.
Eh oui, eh bien alors, mort aux promoteurs.
Oui, vous avez parfaitement raison, Léo Mallet, mort au promoteur. Mais cependant, alors, vive ce roman qui, encore une fois, n'est pas un roman policier. Là, je pense qu'il faut y insister une dernière fois, qui est autre chose, qui rejoint ce fantastique social cher à Macorlan, que nous avons évoqué, et qui, moi, me frappe par une qualité d'écriture. Et là, je rejoins ce que vous disiez être l'opinion des critiques, par une qualité d'écriture qui est une qualité poétique. En ce sens qu'il y se passe dans vos romans de Nestor Burma et dans vos romans policiers une sorte de dérive, c'est-à-dire les gens se trouvent dans une réalité la plus scrupuleusement respectée, la description de l'arrondissement, des rues, des quartiers, des boutiques, et tout d'un coup, lorsque paraît ce personnage onirique qu'est Nestor Burma, dans ces faits divers qui, eux, peuvent revenir du passé, sont, si vous voulez, presque des collages sur cette situation parfaitement décrite, on dérive vers l'insolite. Et c'est là, je crois, ce qui fait le prix de ces romans.
Tout chez moi se fait d'instinct. Je suis un véritable animal. Il paraît que j'écris une langue assez convenable. Ben, je n'ai pas appris à écrire convenablement. Je l'ai appris en lisant La Jeunesse illustrée, comme je le disais l'autre jour. Alors, je suis mauvais juge, moi je ne sais pas. Remarquez, je suis content de ce que je fais, bien sûr. Je ne suis pas de ces auteurs qui négligent, qui disent « Oh, mais ça, ce sont des bluettes, c'est sans intérêt. » Non, non, moi j'estime que ce que je fais est intéressant et j'aime bien me relire, contrairement à d'autres. Mais alors, quelle valeur, là je ne sais pas, je laisse ça aux autres.
Et bien, avant de nous quitter, Léo Mallet, je voudrais vous dire, en conclusion, mon impression, mon jugement. Vous êtes un poète.
Merci.
Thank you.
Ce dernier volet de la série Entretien Léo Mallet Hubert Join a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 6 février 1976.